Bonjour Maëlys, on vous retrouve lundi pour une nouvelle semaine thématique d'Entendez-vous l'écho.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour ce dernier numéro de notre série La Fontaine dans la compagnie des auteurs, une émission de Laurence Genepin, Laurence Millet, Chloé Casmarek, Anne-Vanessa Prévost, Didier Pinault et Alexandre Dangue. La Fontaine a grandi dans la petite ville de Château-Thierry où il a vu le jour le 8 juillet 1621. Élevé à l'école de la campagne par un père en charge des eaux et forêts, il préférera, lui, devenir poète. On l'a considéré comme un dilettante, comme un bon vivant, comme un amuseur. Et peut-être lui-même ne se prenait-il pas tellement au sérieux? Qui sait s'il aurait cru que son œuvre traverserait les siècles et que ses fables prendraient la valeur d'une morale laïque? L'esquisse de la vie de La Fontaine, nous l'avons faite dans notre émission de lundi, c'était avec Patrick Dandré. Et puis mardi, avec Mathieu Berman, nous nous sommes intéressés aux contes de La Fontaine qui constituent un second volet de son œuvre en même temps que les fables, des contes licencieux pour la plupart et pour certains même pornographiques, que La Fontaine reniera sur le tard et sous la pression de l'Académie. Et puis bien sûr, nous n'allions pas laisser de côté les fables elles-mêmes, elles étaient le sujet de notre émission d'hier avec Olivier Leplâtre. Et aujourd'hui... Aujourd'hui, pour l'entendre dire son admiration de l'œuvre de La Fontaine, je reçois le poète Jacques Reda, à qui l'on doit un livre consacré aux fabulistes dans la collection Les auteurs de ma vie, aux éditions Buchet-Chastel. C'était en 2016. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs.
Une montagne en mal d'enfant jetait une clameur si haute que chacun au bruit accourant crut qu'elle accoucherait sans faute d'une cité plus grosse que Paris. Elle accoucha d'une souris. Quand je songe à cette fable, dont le récit est menteur et le sens est véritable, je me figure un auteur qui dit « Je chanterai la guerre que firent les titans au maître du tonnerre ». C'est promettre beaucoup. Mais qu'en sort-il souvent ?
La montagne qui accouche, lui, est rapidement commentée par Michel Aumont. Bonjour Jacques Reda, je vous laisse touiller votre café.
Je vous salue.
C'est incroyable de constater à quel point finalement ces fables de La Fontaine ont donné lieu à des expressions qui sont toujours largement utilisées aujourd'hui. La montagne qui accouche d'une souris, c'est comme si La Fontaine finalement était le père de tout un pan de la sagesse, la grande sagesse française.
Il n'est pas sûr non plus que ce ne fût point, si je peux parler un langage adapté à la circonstance, ce ne fût point des locutions déjà passées dans l'habitude. Ça, on remarque par exemple dans tous les domaines littéraires, par exemple les correspondances des célèbres épistolières comme Madame de Sévigné, ou plus tard Madame du Défant, tous ces gens-là, emploient de temps en temps des expressions qui sont restées d'ailleurs quelquefois valables dans notre époque, mais qui venaient d'ailleurs, presque pas populaires, mais enfin... Pas très loin. Bon, enfin, il est vrai que le bon sens inné de La Fontaine faisait qu'il avait sûrement trouvé des formules capables de s'inscrire dans la mémoire collective même. Oui.
C'est un homme de la trouvaille, un écrivain de l'invention.
Oui, pas de l'invention débridée. On peut pas dire ça, mais. Disons que c'est un peu un aspect concourt l'épine de la chose, c'est-à-dire des petites inventions de détails, mais qui finissent par faire un ensemble tout à fait hors du commun. Je crois que à force d'être naturel, d'être lui-même et de ne pas être excessif ou remarqué sur beaucoup de plans, La Fontaine est devenue un personnage, je ne sais pas comment il était, un personnage unique, mais sans épate, je dirais.
C'est presque un conseil qu'on pourrait donner aux poètes et aux écrivains d'aujourd'hui, d'être naturel. Vous ne croyez pas, Jacques Reda ?
Je me garderais de donner aucun conseil à aucun poète ou écrivain d'aujourd'hui. Non, non.
Bah, vous pouvez donner quelques conseils parce que vous avez quand même beaucoup publié, notamment ces dernières années, vous avez publié les volumes de La Physique Amusante, qui paraissent depuis 2009, c'est aux éditions Gallimard, le quatrième tome apparu l'année dernière sous le titre « Le tout, le reste et le rien ». Il est vrai que vous vous intéressez à la physique, mais dans vos poèmes de la physique amusante, il n'y a pas que des physiciens, il y a aussi des poètes, et en particulier, il y a La Fontaine. Parce que La Fontaine, c'est l'un des auteurs de votre vie, Jacques Reda, pour reprendre le titre de ce petit exercice d'admiration que vous avez donc donné chez Buchet-Chastel dans la collection « Les auteurs de votre vie ».
En principe, c'est des auteurs présents au début de la vie de tout Français, parce que je ne sais pas comment quelles sont les pratiques actuelles, mais à partir des petites classes, on commençait à apprendre par cœur des fables de La Fontaine. C'est comme ça qu'on a d'abord retenu, quitte à en apprendre pour le plaisir plus tard. Et je pense que il y a rien de plus naturel que la poésie. Et cette poésie, elle n'est pas ronflante, n'est-ce pas? C'est pas le lyrisme. Alors que de temps en temps, malgré tout, de cette égalité d'humeur et qui est de bonne compagnie qui caractérise la Fontaine, tout à coup, il y a un vers inoubliable et merveilleux qui surgit, et ce qui prouve que il y avait une disposition. Mais on peut pas faire ça à jet continu. Quand c'est à jet continu, ça peut passer quelquefois chez Hugo, par exemple. Mais à jet continu, le sublime, c'est pas possible. L'avantage de la poésie de ce siècle, qui était un siècle d'équilibre, pas d'équilibre social, pas d'équilibre dans tous les domaines, ça, on est bien d'accord, mais d'équilibre à beaucoup d'égards.
De symétrie, d'harmonie.
La symétrie, Versailles, l'horizontalité de Versailles, la verticalité du souverain, et la platitude de beaucoup de ses sujets. Tout ça faisait quelque chose, une sorte d'ordre, contestable si on veut, mais c'était l'ordre. Et dans la langue à ce siècle-là est arrivée à son point culminant d'équilibre. Je ne dis pas son point culminant de puissance d'expression, peut-être pas, ça c'est plutôt réservé au 19e, mais à son point d'équilibre maximum. Et là, on sent que tout le Moyen-Âge est une préparation. Le 16e est la quasi-conscience chez les poètes et les écrivains de la proximité d'un équilibre majestueux, et c'est ça qui donne cette alacrité, il me semble, à tout ce qui a été écrit au XVIe siècle, tant en prose qu'en poésie.
Donc vous pensez que finalement les romantiques n'ont pas retenu la leçon de La Fontaine, et qu'au fond il y a une espèce de symétrie, une espèce de modération qui s'est perdue par la suite?
Une forme d'équilibre, je crois. Il me semble que tous les phénomènes, passent par trois phases, qui sont une phase de préparation, de genèse, si vous voulez, si on veut partir, c'est pas du plus loin, c'est-à-dire de la formation d'un univers, une genèse, qui peu à peu passe à une phase d'équilibre, qui elle-même, peu à peu, passe à une phase de dégradation qu'on appelle en physique, en thermodynamique, l'entropie. Et ça, c'est inévitable. C'est le cas de notre organisme. C'est le cas d'absolument tous les phénomènes, des plus minuscules aux plus géants qu'on puisse imaginer.
Alors, dans votre recueil de textes de La Fontaine, publié chez Buchet-Chastel, vous avez décidé de suivre votre bon plaisir, d'une certaine façon, dans le choix de ces textes, et vous avez réalisé une promenade avec La Fontaine. On sait que vous aimez bien vous promener, parfois à la sauvette, pour reprendre le titre d'un volume qui regroupe certains de vos articles sur un certain nombre de poètes publiés chez Verdier en 1995. Et vous racontez dans votre introduction que vous avez vu La Fontaine. Ça s'est passé à Saint-Germain. Donc je pense que ce n'était pas Saint-Germain-des-Prés, mais plutôt Saint-Germain-en-Laye. Vous avez vu La Fontaine, incroyable mais vrai.
Oui. Je ne sais pas s'il a été familier de Saint-Germain-en-Laye. Il n'a pas été non plus beaucoup de Versailles, où il n'a jamais eu vraiment ses entrées comme Racine, même Boileau. Mais enfin, je dis ça, c'est un peu une figure de l'impression que j'ai de l'avoir connu. Non pas de façon intime, dirais-je, comme un copain, mais un ami de qui on n'entend pas spécialement de confidence, à qui on n'en fait pas non plus, mais une entente tacite, comme ça, on réagit un peu de la même façon en certaines choses, et puis, en fait, je l'aime comme ça, comme personne. Je le regarde, il est drôle. Je me récite toujours souvent la fameuse épitaphe. Jean s'en alla comme il était venu, mangea le fond avec le revenu, tint les trésors, chose peu nécessaire. Quant à son temps, bien le sut dispenser. Deux parts en fit, dont il soulait penser. L'une à dormir et l'autre à ne rien faire. Alors, c'est un peu le programme que je me serais fixé si j'avais pu. Et que lui-même, qui a été extrêmement actif en définitive, il avait quand même cette tendance à vouloir dormir. D'ailleurs, il y a le fameux le portrait de la Bruyère, qui en fait une sorte de paysan du Danube, hein, qu'il était peut-être, d'ailleurs, se représente mal le contraste qu'il pouvait donner. Il est possible qu'il soit arrivé ici ou là avec la perruque de travers, l'air un peu dans la lune.
Oui, et puis en plus, pour vous, la profondeur de l'homme, elle réside aussi dans l'animal. Donc La Fontaine peut être tout à la fois le rustaud que décrit La Bruyère et en même temps le délicat poète qu'il évoque un peu plus tard.
Oh, ça, il est d'une rare délicatesse, mais qui touche jamais à la mièvrerie. Je trouve que c'est l'homme idéalement équilibré, non seulement de son époque, mais c'est peut-être un modèle.
Ce que j'ai essayé de montrer, c'est que par position, et parce qu'il était très intelligent et qu'il avait un sens extraordinaire de la langue française, c'est un poète, il est à l'intérieur de la langue. Donc le destin du royaume, le destin politique du royaume, s'identifie pour lui au destin de la langue. Il aimait la langue du XVIe siècle. Il aimait la langue du XVIe siècle un peu réformée par Malherbe, mais pas trop. Il la voulait riche, variée. Il voulait un maître qui ne fût pas un maître lyrique, qui ne fût pas trop régulier. Il a inventé cet admirable maître irrégulier qui permet à la phrase d'être à la fois très fortement rythmée et d'être en même temps très souple, très varié. Ce que j'essaye de mettre en évidence, c'est que ce miracle de culture dont a parlé Gide à son propos, parce qu'on sent que derrière ces fables si simples, si évidentes, si chantantes, il y a Horace, il y a Tacite, il y a Virgile, comme il y a Ronsard et comme il y a Malherbe et Durfé. Mais il me semble que cet enracinement dans une vaste littérature antérieure, ce côté traducteur de La Fontaine, lui donne justement cette énergie pour tenir bon face a un pouvoir qui lui parle la langue du jour, si vous voulez, ou la langue d'hier, mais qui n'a pas cette espèce d'arrière-plan de longue mémoire.
Je veux dire, on peut pas dire mieux.
On peut pas dire mieux non. Que ce qu'a dit Marc Fumaroli.
Oui.
Bon, bah d'ailleurs, passons à un autre sujet.
C'est pas la première fois qu'il s'occupe de La Fontaine.
Non, il est un peu spécialiste.
Je trouve que c'est un des... Certainement. Mais spécialiste de La Fontaine, je sais pas si ça veut dire quelque chose. La Fontaine lui-même n'était spécialiste de rien. C'est un spécialiste du vrai, je dirais. Parce qu'il y a une vérité chez La Fontaine, une vérité toute simple, qui se drape pas, ou qui ne se met pas à poil, comme on dit-on, la vérité, quand elle sort.
La vérité, c'est le bon sens.
Pour se faire remarquer et risquer de se faire harceler, comme de nos jours.
C'est le bon sens, la vérité, le bon sens de la morale des fables.
Oui, oui. C'est pour ça aussi qu'il a été négligé par les poètes de la révolte, du désespoir, de l'invective, etc. Les poètes modernes, disons, plutôt à partir des surréalistes, les surréalistes surtout, tout ce qui tourne autour, ou tous les poètes qui dont point de départ est une forme de révolte ou d'autre. Et ça, c'est légitime, on peut pas. Mais La Fontaine n'était pas révolté, mais on voit que quand il le fallait, il a pris des positions que certains révoltés n'auraient peut-être pas prises, notamment dans l'affaire de Fouquet. Il a fallu beaucoup de courage. Il l'a un peu payé, d'ailleurs, parce qu'il n'a jamais été ensuite bien en cour. Hein.
Mmh. Bah, disons qu'il est allé aussi loin qu'il pouvait, sans être un révolutionnaire. C'est quelqu'un qui a combattu l'injustice sans jamais trop se compromettre.
Dans les fables, il y a des passages plus ou moins brefs qui sont durs pour ceux qu'on appelait les grands à cette époque-là. Alors ça passait à l'époque parce que au fond, malgré tout, à certains égards, elle était plus tolérante que la nôtre et que ça passait un peu comme un trait d'esprit. Mmh. Il y avait ça aussi. Je crois que la langue française s'est affinée, équilibrée parce qu'elle était une langue d'urbanité. Mmh. Une langue d'urbanité, c'est pas pour rien qu'elle est devenue longtemps la langue de la diplomatie. Hein.
Et c'est une langue, dites-vous, Jacques Reda, d'une grande sensualité. Mais en même temps, on a parlé déjà ici dans cette émission des contes licencieux de La Fontaine, mais je ne pense pas que ce soit ça que vous vouliez dire quand vous parlez de la sensualité de la langue de La Fontaine.
Oh non, 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 c'est une sensualité qu'a retrouvé très bien Valéry, par exemple. Même chose, mais qu'a retrouvé presque avec le système qui est intermédiaire qu'ont introduit les symbolistes, avec la pratique, presque la mécanique des allitérations, comme ce vers de Vielle-et-Griffin, je ne sais plus lequel, qui parlait du rossignol, module en mal d'amour sa molle mélodie. Alors ça devient vraiment affreux. Tandis qu'il y a des vers de Valéry qu'on pourrait attribuer à La Fontaine, d'ailleurs, hein, beaucoup, dans les fragments du Narcisse, notamment où Narcisse parle, qui semble venir tel quel de La Fontaine, comme il en est de Racine, qui passe pour venir de Racine dans le jeune parc.
Alors il y a une question qui semble vous intéresser au sujet de La Fontaine, c'est celle de son rapport à la religion, Jacques Reda. Qu'est-ce qui finalement pose question pour vous dans ce rapport à la chrétienté? Parce que c'est évidemment de ça qu'il s'agit.
Alors le parcours de La Fontaine est bien simple. Il a commencé par, je sais pas quelle a été sa jeunesse, quelle a été son adolescence, quelle était exactement l'éducation que recevaient les jeunes gens dans le milieu qu'il avait, qui n'était pas un milieu de haute noblesse, n'est-ce pas, mais quand même aristocratique. C'est pas toujours est-il qu'il a écrit ses premières œuvres, c'est surtout ses contes, qu'on dit licencieux, pornographiques, c'est peut-être un peu fort quand même, mais
il y en a certains
licencieux, Ils sont très drôles. Alors, ça me posait un problème, puisque les livres de la collection de Buchet-Chastel sont accompagnés d'une anthologie, d'une petite anthologie. Que choisir parmi les contes? J'en ai trouvé un qui reflète un petit peu la direction de tous les autres, mais c'était la même chose pour les fables. Comment choisir des fables de la fable? Autant mettre tous les titres dans un chapeau, le secouer, et puis tirer ce dont on a besoin.
Mais je reviens un petit peu sur l'aspect christianisme, parce qu'on sait quand même que quand La Fontaine est mort, il portait sur lui
un cilice.
C'est quand même pas un petit détail, ça, Jacques Reda?
Non, c'est pas un petit détail.
Pour quelqu'un qui justement a écrit ses contes licencieux.
Oui, enfin c'est le parcours de beaucoup de gens aussi. Peut-être que La Fontaine n'a pas été original.
En fait, il a eu peur, tout simplement.
Il a pris une assurance avant de mourir. À ses fins dernières, et plus la pression religieuse de la société est forte, moins on y échappe. Et donc il a porté cilice, et bon, tout ça. Ça figure dans son discours, le deuxième discours à Madame de la Sablière. Désormais que ma vie aussi bien que ma muse aussi bien que mes jours suivent de leur destin l'inévitable cours, etc.
Et ben on peut l'écouter justement ce discours, ou du moins un extrait.
Iris, je vous louerai. Il n'est que trop aisé. Mais vous avez 100 fois notre encens refusé. En cela, peu semblable au reste des mortels qui veulent tous les jours des louanges nouvelles. Pas une ne s'endort à ce bruit si flatteur. Je ne les blâme point. Je souffre cette humeur. Elle est commune aux dieux, aux monarques, aux belles. Ce breuvage vanté par le peuple rimeur, le nectar, que l'on sert au maître du tonnerre, et dont nous enivrons tous les dieux de la terre, c'est la louange, Iris. Vous ne la goûtez point. D'autres propos chez vous récompensent ce point. Propos, agréable commerce, où le hasard fournisse en matières diverses, jusque-là quand votre entretien la bagatelle à part. Le monde n'en croit rien, laissons le monde et sa croyance. La bagatelle, la science, les chimères, le rien, tout est bon. Je soutiens qu'il faut de tout aux entretiens. C'est un parterre où flore et pensez bien. Sur différentes fleurs, l'abeille s'y repose et fait du miel de toutes choses. Ce fondement posé, ne trouvez pas mauvais quand ces fables aussi j'entremêle des traits de certaines philosophies subtiles, engageantes et hardies. On l'appelle nouvelle. En avez-vous ou non oui parlé?
La compagnie des auteurs sur France Culture. Alors ça, c'est le premier discours à Madame de la Sablière. Ce n'est pas à celui-là que vous faisiez référence, Jacques Reda. Parlez-nous un petit peu de ces discours à Madame de la Sablière dont vous reproduisez certains extraits dans ce livre chez Buchet-Chastel.
Oui, je crois que on a reproduit entièrement le deuxième, non? Peut-être pas. Je ne me rappelle plus.
Vous vous souvenez plus bien.
Hein. Mmh. Oui. Ouais. C'est qu'il l'a lu à l'Académie. Et où il dit, je suis chose légère et vole à tout sujet, je vais de fleur en fleur et d'objet en objet. Alors, moi, j'adore cette façon de prendre les choses, d'être tout à fait, non seulement sérieux, mais vraiment efficace dans ce qu'il a écrit, mais aussi de continuer. Le poète était à l'époque un rimeur, maintenant il n'est même plus un rimeur. Alors, on se demande, c'est très difficile de définir aujourd'hui la poésie, le poétique, le poète et le poème.
Pourquoi faudrait-il que la poésie soit forcément rimée?
Oui, bien sûr, oui, non mais je veux dire, à l'époque, cette époque était aisée de désigner la poésie, puisque pour faire de la poésie, il fallait écrire des vers. Alors celui qui écrivait des vers, mais quel que fût le sens des vers, des fables, de la poésie dite scientifique, la poésie élégiaque, narrative, tout ça, c'est un poète, voilà, c'est tout.
Bah, de la poésie scientifique, il en a fait aussi La Fontaine avec son poème de Quinquina.
Oui. il rejoint la cohorte des poèmes extrêmement nombreux à l'époque, surtout au XVIe d'ailleurs, considérablement oubliés d'ailleurs aussi, et qui ont rimé justement
des médicaments.
Alors là, oui, mais il y a eu des poètes, enfin, dans la suite de Lucrèce, si vous voulez, après la longue interruption des temps du Moyen-Âge.
Mais qu'est-ce qu'il dit alors dans ce poème de Quinquina ? Vous l'avez un peu entendu.
Alors, je crois que la découverte des vertus médicales de cette plante remonte à peu près à cette époque. Et aux efforts en France d'un médecin, dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, j'oublie souvent les détails un peu sérieux.
Mais c'est pas grave, hein.
C'est pas grave, non. Enfin, j'aurais été bon de saluer sa mémoire. Donc, je sais plus qui a proposé, on a dû lui proposer de traiter le sujet. Et il a accepté et il s'y est affecté. Ce problème a souvent été négligé, même par ses commentateurs les plus chaleureux, quelquefois. On dit oui, c'est une chose de commande, où on sent bien que c'est de la fontaine à chaque vers. Il y a des vers dont on se dit, ah, ça c'est Hugo, ça c'est Baudelaire, ça c'est Valéry, ça c'est Supervielle. Et puis, c'est la fontaine. Mais quand c'est la fontaine, on se dit, mais tiens, comment se fait-il qu'on le remarque, puisque c'est un vers qui cherche en même temps à passer un peu inaperçu. C'est ça qui cette quasi indistinction du vers et d'une prose qui à l'époque était quand même couramment excellente.
Mais c'est peut-être ça justement La Fontaine, c'est ce vers qui cherche à passer inaperçu.
Oui, oui.
Et vous dites que son poème du Quinquina, de son esprit, n'a qu'une idée approximative. Vous le dites d'ailleurs dans un poème que vous avez écrit, Jacques Reda, sur La Fontaine. Donc si on n'a pas lu ce poème, on n'a pas compris La Fontaine, tout simplement.
Oui, l'intérêt qu'il pouvait avoir pour des choses pratiques, comme il en a eu pour des questions philosophiques, par exemple, en marquant, non pas en exposant longuement son avis contre certaines positions de Descartes à propos de l'animal-machine.
Il était très contre Descartes.
Oui, et ça va très loin, si on veut, parce que, comme le disait à fort juste titre Borges, il y a une influence des auteurs nouveaux sur les auteurs anciens. Il disait qu'on pourrait dire que, par exemple, je ne sais plus quel exemple lui prenait, mais peut-être était-ce l'influence de Kafka sur tel auteur bien antérieur. Alors, là, c'est-à-dire que ce qu'on a pu découvrir depuis, pas personnellement, mais dans le domaine de la découverte, influe sur la lecture qu'on a des gens anciens. On dit, n'avait-il pas, peut-être à tort, n'avait-il pas pressenti, deviné ou annoncé d'une certaine façon ces choses-là, qu'elles soient scientifiques ou autres.
Oui. Et alors sur Descartes, il y a tout le rapport à la nature de La Fontaine, qui disait « je suis chêne, je suis roseau » de la même façon qu'un aigle ou singe. Et c'est tout le contraire, vous le disiez, de cette idée de l'animal-machine de Descartes. Donc là, il y a une prise de position qui est presque visionnaire, écologiste.
Oui, c'est d'ailleurs dans le contexte même du discours à Madame de Sablière qu'on a entendu, là, oui. C'est après qu'il illustre l'affaire d'une fable.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Jacques Reda, nous allons continuer à parler avec vous de la Fontaine, mais comme tous les jeudis dans cette émission, nous vous proposons d'écouter un grand lecteur qui n'est pas un spécialiste de La Fontaine, mais qui est un poète lui-même. Il s'appelle Olivier Barbaran. Et vous venez nous parler dans un premier temps de ce que vous pensez de La Fontaine. Et dans un deuxième temps, vous nous présenterez une actualité poétique qui vous a tapé dans l'œil. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Alors La Fontaine pour commencer.
La Fontaine, j'ai été très sensible à ce que disait à l'instant Jacques Reda du dosage du sublime et du subtil. Je crois que c'est cela qu'il nous apprend. Il y a du sublime, mais il est subtil et il n'est pas à jet continu. J'évoquais dans la sorte de labyrinthe qui nous a conduit jusqu'à ces studios avec Jacques Reda un souvenir que je ne peux pas taire, qui est le moment où il est venu, il y a 30 ans, devant un parterre de Normaliens, sur l'invitation d'Edicadour et de moi-même, pour parler de poésie et où Jacques Reda s'est mis, de mémoire d'ailleurs, à nous réciter des vers de La Fontaine. Devant des normaliens très heideggerianisés à l'époque, convaincus que la poésie était essentiellement une chose sérieuse, sublime, mais aussi tragique et fondamentalement philosophiquement lourde, alourdie de concepts et d'ambitions pathétiques, nous étions absolument terrorisés en découvrant que La Fontaine pouvait être un poète. Je crois que c'est un poète qu'on étudie très tôt, peut-être
qu'il
parfois
est méprisé
trop tôt,
par
et que du coup on oublie la dimension de sa poésie et qu'il faut avoir l'ouïe de plus en plus fine pour pouvoir atteindre à la génialité profonde à la fois de son invention et de son vers. Et je suis assez content que ce soit un poète qui nous allie subtilité et sublime, qui me serve d'introduction à l'auteur que je veux présenter aujourd'hui, ou au titre que je veux présenter aujourd'hui, qui est Lionel Rey, qui a publié il y a quelques mois déjà « Souvenirs de la maison du temps » chez Gallimard. Dans « Souvenirs de la maison du temps », Lionel Rey, en effet, fait preuve de cette même capacité du vers, dans l'école de La Fontaine, de Supervielle et d'autres, à se faire de plus en plus subtil, au point qu'on pourrait passer à côté, peut-être, du génie de ce texte, si l'on n'essaye pas d'écouter comment la voix de Lionel Rey, de plus en plus sourde, de plus en plus fine, de plus en plus ténue, de plus en plus dans l'estompe, parvient finalement à saisir les enjeux fondamentaux d'une mémoire et d'une mémoire du grand âge, hein, puisque j'ai peine à le reconnaître, mais Lionel Rey va avoir 82 ans. Mm-hmm. Alors on connaît l'itinéraire de Lionel Rey, on se souvient que Robert Laureau a signé Lionel Rey lorsqu'il a changé d'une certaine façon d'esthétique et qu'il est passé d'une vision théorique, un peu textualiste de la poésie à une certaine manière d'assumer le lyrisme. Dans ce recueil, Souvenir de la maison du temps, il s'agit de faire retour à la fois sur les saisons souveraines, celle de l'enfance, celle du passé, mais aussi d'affronter sans doute cette époque du grand âge qui donne à la nuit l'une des dimensions importantes de la poésie de Lionel Rey, une dimension peut-être encore un peu plus sombre, puisque cette nuit, ça devient effectivement cette nuit du grand âge ou cette nuit de la mort qui est affrontée à l'horizon, mais le tout sans pathétique, toujours dans cette exploration de l'en-deçà, de l'en-dessous, à voix ténue, à voix feutrée, mais à voix qui peut se permettre aussi, par l'invention d'un nouvel hétéronyme, Laurent Barthélémy, de devenir une voix plus grande, comme s'il s'agissait, dans ce même recueil, et de façon très, très souple et très subtile, là encore, dans Souvenir de la maison du temps, d'affronter la dimension peut-être rêveuse, nervalienne de Lionel Rey, et d'un autre côté, celle plus apollinarienne, plus Michel Ducienne, celle d'une plus grande violence, à travers la signature de Laurent Barthélémy, dont le nom même suffit à dire la violence et l'intensité. Bref, subtilité et ténuité, intensité, profondeur, mais faites attention, je crois que c'est un poète devant lequel il faut dresser l'oreille.
Donc, c'est votre conseil de découverte, ce n'est pas une découverte pour beaucoup de lecteurs de poésie, mais c'est peut-être malheureusement une découverte pour beaucoup d'autres lecteurs qui sont peut-être plus habitués à la prose. Est-ce que vous avez le sentiment que Lionel Rey, par exemple, pourrait d'une manière ou d'une autre se revendiquer de La Fontaine, et de manière plus globale, est-ce que vous-même, en tant que poète, vous pourriez vous revendiquer de La Fontaine? Est-ce qu'aujourd'hui, quand on est poète, faire référence à La Fontaine, ce n'est pas finalement se tirer une balle dans le pied? Est-ce qu'il n'y a pas ça quand même?
Vous aviez un débat tout à l'heure sur le fait que pourquoi la poésie devrait-elle être rimée? Je crois qu'aujourd'hui, il faut poser la question à l'envers. Pourquoi la poésie ne pourrait-elle être rimée? C'est plutôt cela. Est-ce qu'on se tire une balle dans le pied? Lionel Rey peut-il se revendiquer de La Fontaine? Je le pense. profondément, ne serait-ce que parce que justement le vers chez lui existe. Il existe à rythme irrégulier, mais La Fontaine nous a appris cette irrégularité. La rime splendide entre apollinaire et imaginaire, rime toute simple mais essentielle chez Lionel Rey, est une rime, et une rime qui porte du sens. La délicatesse avec laquelle il travaille la langue me paraît aussi être tout à fait compatible avec la leçon de La Fontaine. Faut-il, quand on est poète, se revendiquer de La Fontaine? Le problème, c'est de se revendiquer de génie, c'est toujours se tirer une balle dans le pied. Ou bien parce que le malentendu est tel sur le génie qu'on vous classe tout de suite comme une chose archaïque et qui n'a rien compris à une modernité explosée. Ou bien parce que la disproportion entre ce que nous faisons et ce que le génie a produit fait qu'on a l'impression de se draper dans une toge un peu trop grande pour soi. Mais on ne peut pas ne pas écrire en français et ne pas s'intéresser à l'état du français et à la subtilité du français que nous a légué La Fontaine. On écrit dans une langue, avec l'histoire de cette langue. C'est peut-être cela qui distingue les poètes aujourd'hui, des poètes qui travaillent avec l'histoire d'une langue, qui ont conscience de cette histoire, et des poètes qui veulent travailler peut-être dans un état exclusivement contemporain de la langue.
Alors, Olivier Barbaran, je suis sûr que vous aurez quelques questions à poser en seconde partie à Jacques Reda. Vous restez donc avec nous, mais je vous remercie d'ores et déjà pour votre chronique. Et nous poursuivons notre promenade en compagnie de La Fontaine au dernier volet d'une semaine qui lui est consacrée. Notre guide aujourd'hui est le poète Jacques Reda. Et nous repartons dans cette seconde partie avec la célèbre fable « Les animaux malades de la peste ». Fable qui est présente dans votre livre Jacques Reda, publié en 2016 aux éditions Buchet-Chastel dans la collection « Les auteurs de ma vie ». Vous nous direz pourquoi vous avez choisi de faire figurer en particulier cette fable.
Un mal qui répand la terreur, mal que le ciel en sa fureur inventa pour punir les crimes de la terre, la peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom, capable d'enrichir en un jour l'Achéron, faisait aux animaux la guerre. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. On n'envoyait point d'occupés à chercher le soutien d'une mourante vie. Nul mets n'excitait leur envie, ni loup ni renard n'épiait la douce et l'innocente proie. Les tourterelles se fuyaient, plus d'amour partant, plus de joie. Le lion tint conseil et dit : mes chers amis, je crois que le ciel a permis pour nos péchés cette infortune. Que le plus coupable de nous se sacrifie au trait du céleste courroux, peut-être il obtiendra la guérison commune. L'histoire nous apprend qu'en de tels accidents ont fait de pareils dévouements. Ne nous flattons donc point, voyons sans indulgence l'état de notre conscience.
Rester roi malgré tout, ménager la chèvre et le chou. J'ai bien souvent fermé les yeux sur des contrats un peu douteux
et laissé de drôles de loustiques faire des trucs pas très catholiques.
Les animaux malades de la peste et la morale de cette histoire que nous n'avons pas le temps d'écouter malheureusement ici en entier, on la connaît bien. Elle dit « Selon que vous soyez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir ». Qu'est-ce qui vous a conduit, Jacques Reda, à reproduire cette fable-là, en particulier dans votre livre ?
Je vais vous répondre très franchement, je n'en sais rien.
Vous n'en savez rien.
Non, parce que la question du choix des fables, il fallait que j'opère un choix absolument, parce que j'avais droit à quoi, même pas 100 pages, 80. Il fallait choisir. Alors, je me suis acharné pendant un certain temps avec d'abord deux directions. La première, il y a beaucoup de fables très connues, éliminons les très connues et essayons de faire un choix dans les moins intéressants. C'est très possible dans les moins connues. Mais je dis ça, on me reprochera certainement d'avoir parmi les quelques-unes des plus connues. inverse, etc.
Donc c'est des considérations assez pratiques,
alors,
en fait, finalement.
Alors, j'ai fait ce à quoi je faisais allusion tout à l'heure. J'ai choisi celle que je préférais, si on peut en préférer, parmi les plus connues, et je suis allé un peu au hasard, en prenant garde à respecter la forme de chaque livre, de choisir une dans chaque livre, ou deux, ou trois, et c'était un peu la technique des papillons dans un chapeau, hein. Ça, je le reconnais volontiers. Je pense qu'on
comme tout est bon dans La Fontaine, finalement, on n'a pas besoin de choisir.
C'est ça, oui.
Olivier Barbaran, vous aviez des questions, je crois, à poser à Jacques Reda, puisqu'on a la chance de vous avoir sous la main. Qu'est-ce que vous souhaiteriez lui demander ?
Peut-être la première question, finalement, va-t-elle être en lien avec ce que vous venez de dire à l'instant. Ce qui me frappe dans cette fable, c'est à quel point, alors qu'elle est très connue, elle devrait tordre le cou à la question récurrente d'un La Fontaine moralisateur. Étant donné qu'on voit bien que la morale qui est présente ici n'en est pas une, elle est une dénonciation. Elle ne suppose pas un précepte didactique, mais elle suppose une indignation par rapport à un état du monde. Sans doute est-elle nécessaire pour cela. Je voulais vous demander ce que vous pensez, enfin ce qu'il vous arrive de rencontrer quand vous défendez La Fontaine, de l'eau de préjugés. Je me demande s'il y a un auteur plus mal servi par sa gloire que La Fontaine.
Je vous avouerai que j'ai rarement, sinon jamais eu l'occasion d'en parler de cette façon.
C'est vrai que c'est tout l'intérêt de cette émission de pouvoir vous permettre de répondre enfin sur cette question-là.
Oui. Je sais pas. Oui, c'est arrivé une fois ou deux, mais on parle de La Fontaine d'autres points de vue. Non, il n'y a pas un intérêt. Il y a une présence de La Fontaine dans presque dans ce qu'on appelle l'inconscient collectif. Il est là, diffus, dans une densité qui est en train de se raréfier d'ailleurs. Mais autrement, il y a rarement, comme vous faites, une sorte de point fer sur...
Mais il y a peut-être, pour prolonger cette question, Olivier Barbaran, et prolonger aussi votre réponse dans cette idée de la diffusion comme ça, dans l'inconscient français, des fables de La Fontaine, l'école, la question de l'école, qui a peut-être banalisé, depuis la Troisième République, l'intérêt de La Fontaine. Et c'est vrai que... peut-être qu'on ressent moins aujourd'hui son importance. Je ne sais pas si ça va dans votre sens, Olivier Barbaran.
Oui, il y a une utilisation scolaire de La Fontaine qui est très bien, parce que tant qu'on continuera à apprendre des fables, peut-être continuera-t-on à entendre aussi les sonorités même de la langue. Mais en même temps, le paradoxe, c'est que cette écriture d'une extraordinaire subtilité, cette leçon de vie d'une terrible complexité et ambiguïté, est distribuée à un moment où l'on croit que La Fontaine est d'un didactisme direct et transparent. Et j'ai le sentiment que, du coup, le malentendu s'engendre ainsi.
Ah oui.
Et c'est le procès qui lui a été souvent fait. J'ai été un peu inquiet, par exemple, de l'utilisation du mot « bon sens » dans vos échanges, de façon à ce qu'il ne soit pas réduit à une sorte de bon sens un peu trivialisé. Si c'est le bon sens le plus lumineux, oui, mais si c'est le bon sens trivial de « les vérités, finalement, sont pas bien complexes », ce n'est certainement pas, je crois, la leçon de La Fontaine, ou en tout cas celle que j'en tire.
Oui, mais cette question du bon sens, justement, elle fait partie, peut-être, du... regard qu'on porte sur lui. Et c'est précisément parce qu'il y a dans La Fontaine une morale qui est une morale considérée très largement comme une morale de bon sens qu'il est peut-être décrédibilisé, vous ne croyez pas ?
Je le pense. Je me demandais aussi, puisqu'on est sur cette question et de l'impact de La Fontaine dans la société française, on connaît le mot très fameux de Taine selon lequel La Fontaine serait notre mère. À la fois, je comprends bien le sens qu'il lui donne, fondateur peut-être des récits fondamentaux qui font une société. Je me demandais si notre Homère, tout de même héros problématique, ce ne serait pas plutôt Rabelais, mais dans ce cas-là, La Fontaine serait notre Ovide. Est-ce que vous partageriez cette idée ?
Il faudrait que j'y réfléchisse.
On vous invite la semaine prochaine, si vous voulez.
Parce qu'il n'y a pas eu que Virgile et Ovide, il y a eu aussi Lucrèce.
J'y pensais à cause aussi des métamorphoses, de cette capacité pour lui de faire pivoter en permanence l'animalité et l'humanité dans ses personnages.
Mmh. Oui.
Le pouvoir des fables, de quoi est-il fait selon vous, Jacques Reda? Il y a d'ailleurs un titre d'une fable de La Fontaine qui s'appelle Le pouvoir des fables. C'est quand même un pouvoir qui existe selon vous?
Je veux dire, vous dire que je lis ce qu'on appelle poésie. Je lis avec essentiellement avec l'oreille et pour la satisfaction que je tire de la sonorité du mouvement des vers. Voilà. Alors c'est valable pour La Fontaine qui procure un enchantement d'une qualité particulièrement subtile. Mais c'est vrai aussi pour beaucoup d'autres. Je crois profondément une chose à la langue, c'est que il y a pas de grands poètes, ni de poètes médiocres, ni de poètes nuls. Il y en a d'un certain point de vue, bien sûr, mais ça, quel étalon adopter pour en juger? C'est très difficile. La poésie, c'est la langue, c'est l'état de la langue. La langue est un organisme qui, comme celui que j'évoquais tout à l'heure, a une genèse, un équilibre et une marche vers sa fin. Et ben, je crains malheureusement que nous soyons au début de la marche vers la fin de la langue, de la langue française qui se dégrade de toutes les façons. Et c'est un processus contre lequel il y a même presque pas lieu de s'indigner parce que on ne peut rien faire. Si vous êtes atteint par l'âge, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous avez rien ne vous rajeunira. Vous serez condamné à disparaître comme tout doit disparaître. Comme
enfin, c'est un grand débat, mais tout disparaît, mais surtout tout se transforme. Vous ne croyez pas, Jacques Reda?
Tout se transforme en quoi?
En autre chose.
Non, mais la transformation exige alors un passage par ce qu'on pourrait appeler le chaos. Le chaos dans lequel se trouvent déjà, d'ailleurs, des germes d'un nouvel équilibre. Mais tout ça, ça prend du temps. Ça prend pas le temps d'une vie humaine. Ça peut prendre des siècles.
Et vous-même, quand vous écrivez de la poésie, Jacques Reda, vous estimez éviter le chaos, vous placez dans une certaine symétrie, comme le faisait La Fontaine?
Non, je sais pertinemment qu'en utilisant le mètre régulier, comme je le fais depuis maintenant un certain temps, j'écris essentiellement pour, comme l'avait dit Quignard, j'écris pour être lu au XVIIIe siècle. Voilà.
Volupté. Volupté qui fut jadis maîtresse du plus bel esprit de la Grèce. Ne me dédaigne pas, viens t'en loger chez moi. Tu ne seras pas sans emploi. J'aime le jeu, l'amour, les livres, la musique, la ville et la campagne, enfin tout. Il n'est rien qui ne me soit souverain bien, jusqu'au sombre plaisir d'un cœur mélancolique. Viens donc, et de ce bien, ô douce volupté, veux-tu savoir au vrai la mesure certaine? Il m'en faut tout au moins un siècle bien compté, car 30 ans, ce n'est pas la peine.
Un extrait des Amours de Psyché et Cupidon, lu par Aurélia Petit. Alors c'est également l'un des textes qu'on peut retrouver dans votre anthologie Jacques Reda. Enfin, comme vous nous avez dit que vous les avez choisis plus ou moins au hasard, je ne vais pas vous demander pourquoi vous l'avez choisi.
Ah non, c'est pas cela.
Ah, parce que, d'accord.
Non, dans les fables, dans le grouillement, si on peut dire, des fables, c'est très difficile de faire un choix, c'est impossible. Quoi.
Alors pourquoi Psyché et Cupidon?
Ah ben parce que d'abord, je crois que j'ai même mis cette partie de Psyché en exergue, non, il me semble. Parce que, non, je ne sais plus où je l'ai mise. Parce que c'est un passage merveilleux, absolument.
Parce que c'est l'amour aussi? Est-ce qu'il est question d'amour chez La Fontaine,
non,
parfois?
Non, mais il y a une substance du vers qui est... je sais pas, moi, je goûte ça de toutes les façons. C'est un plaisir. Il faut voir comment. Par exemple, je parlais tout à l'heure de la systématisation des assonances qui a paru quelque chose de très poétique à une époque. Ici, je remarque une chose, c'est que dans tous les vers de la Fontaine comportent non pas une assonance, si on veut, mais allusive presque. Regardez, ô douce volupté qui sont qui dès notre enfance, le vivre et le mourir nous deviendraient égaux. Amante universelle de tous les animaux que tu sais attirer avec violence. Il y a une espèce de continuer qui est pas volontaire d'ailleurs. Alors c'est ça. Et là je dis bon, il y a le génie personnel, mais c'est celui de la langue aussi. C'est celui de la langue qui veut. La langue finalement. Elle a ces moments de grâce, et ces moments de grâce qui lui sont propres, qui lui appartiennent. On leur donne des noms. On leur donne des noms parce qu'ils sont situés dans le temps et même dans l'espace. Alors on les appelle Villon, Ronsard, Duvelet, etc. jusqu'à Lionel Ray, si vous voulez. C'est des noms pour les distinguer dans l'indistinction progressive de la langue qui, de nos jours, et depuis la fin même du 19e siècle, ne peut plus permettre l'utilisation de vers réguliers parce que nous sommes à d'autres égards, à tous les égards, dans une situation pré-chaotique, au moins.
Alors, on revient donc à la question du chaos. Olivier Barbaran, alors sur cette question, ou une remarque, ou même une question à Jacques Reda.
C'est peut-être sur la littération dont vous venez de parler. C'est le dosage qui vaut, ce n'est pas l'interdiction ni de l'assonance ni de l'allitération. Si on prend le torrent et la rivière, oui. Avec grand bruit et grand fracas, un torrent tombait des montagnes, il semble quand même que là, il y va là aussi, La Fontaine. Enfin, il y a de la charge parfois chez lui aussi.
Je suis persuadé qu'il ne l'a pas voulu. Je suis persuadé que ça se passe de la façon la plus inconsciente et la plus naturelle qui soit.
Ça vous semble le cas aussi, Olivier Barbaran?
C'est-à-dire une écriture moins concertée, peut-être. Vous nous proposez un La Fontaine peut-être plus libre, plus à marche,
non,
paisible
plus,
que...
plus ouvert au génie propre de la langue. Voilà. C'est tout. Alors, c'est difficile. La langue, c'est une abstraction, si vous voulez. Mais ça, en même temps, c'est une réalité considérable.
Est-ce que vous avez une œuvre préférée tout de même de La Fontaine qui serait peut-être Le Songe de Vaux, puisque on a commencé cette émission en racontant comment vous aviez vu une apparition de La Fontaine sur la terrasse de Saint-Germain-en-Laye, apparition évidemment imaginaire mais qui pour vous était tout à fait réelle, et vous lisiez à ce moment-là la féerie du Songe de Vaux. Est-ce que ce texte a quelque chose de particulier pour vous, ou est-ce que s'il fallait choisir un texte préféré, ce n'est pas celui-là que vous prendriez?
Oh, je pense que, même en prose d'ailleurs, La Fontaine est reconnaissable. Il y a une différence de, pas de niveau, mais je sais pas comment dire, entre sa prose et son vers. C'est ça, que son vers est prosaïque et sa prose n'est pas poétique, pas pour moi, elle est pas, mais elle est poétique dans le mouvement, dans ce qu'elle suggère. Alors non, j'ai pas de préférence, je le trouve bon partout, mais effectivement, Le Songe de Vaux est intéressant à beaucoup d'égards, parce que il situe la féerie de Fouquet et tout ça se situe dans un moment historique assez important d'affirmation du pouvoir absolu du roi, et au surplus, il y a un phénomène assez curieux au début. La Fontaine dit je rêvais qu'il était à tel endroit, et à un moment celui qu'il était se transforme en quelqu'un qui dit lui-même qu'il rêve. Alors il y a une petite cascade là qui est probablement aussi involontaire, mais qui montre certaines systématisations qui ont été prises par les rénovateurs, comme on dit, du récit moderne.
Vous avez dit qu'il y avait du Francis Ponge avant la lettre dans Le Songe de Vaux. Qu'est-ce que ça veut dire?
Je sais plus ce que ça veut dire. Ah bon. C'est probablement justifié. Dans la mesure où c'est descriptif. Dans les amis, c'est très descriptif. C'est même un peu ennuyeux par endroits, parce que ces descriptions de rocailles, de choses qui ont l'air de pierreries et tout. Mais il y a quand même souvent aussi une façon de savoir retenir l'eau, par exemple, ou les cascades et tout ça, qui est assez remarquant.
Merci beaucoup Jacques Reda d'être venu nous parler de votre La Fontaine. Merci aussi à vous Olivier Barbaran de nous avoir accompagnés dans la seconde partie de cette émission. Jacques Reda, vous êtes l'auteur ou plutôt le maître d'œuvre d'un livre qui vous est très personnel, dans lequel vous parlez des textes de La Fontaine qui vous sont chers, intitulé donc La Fontaine et publié chez Buchet-Chastel en 2016. Tout récemment, vous avez publié aussi le recueil de poèmes Accident de toilette, illustré par Anne-Marie Soulcier. Ça, c'est aux éditions Fata Morgana. La semaine prochaine, eh bien, nous bourlingrons en compagnie de Blaise Sandrard. Mais avant cela, c'est le moment de retrouver Jacques Bonnafé pour encore un peu plus de poésie.
Bonjour, bonjour à tous. Se faufiler. Non, le titre du poème de Marina Tsetaïeva est peut-être plus amer qu'il n'y paraît aujourd'hui. Mais la plus belle victoire sur le temps et la pesanteur, c'est peut-être de passer sans laisser de traces, de passer sans laisser d'ombre sur les murs, peut-être subir un refus, être rayé des miroirs, ainsi Lermontov dans le Caucase s'est faufilé sans alarmer les rochers. Poèmes à bloc. Marina Tsetaïeva a adressé nombre de ses poèmes à ses amis, à ceux qu'elle admire, à Maïakovski, à Pasternak et à Alexander Blok. Ton nom, un oiseau dans la main. Ton nom, sur la langue, un glaçon. Un seul mouvement de lèvres, quatre lettres, la balle saisie au bond, dans la gorge, un grelot d'argent. Une pierre jetée dans les temps sangloterait ainsi quand on t'appelle. Dans le piaffement léger des sabots la nuit, ton nom, son éclat retentit, le chien du fusil qui claque à la tempe le dit. Ton nom, ah, impossible, ton nom, le baiser sur les yeux, sur le tendre froid des paupières. Ton nom, le baiser sur la neige, gorgé d'eau bleue qui sourd, glaciale, avec ton nom, le sommeil est profond. C'est écrit en 1916. Et celui-ci, en janvier 34, comme à bout de force. Je m'ouvre les veines, irrécupérables et ingarrotables, la vie coule à flot, mettez au-dessous assiettes et seaux. Toutes les assiettes seront toujours plates, petits les seaux. À côté, débordant, sur la terre noire, nourrir la fougère, tombe, irréversible, irrécupérable et ingarrotable, l'averse des vers. Et celui-ci, il n'est pas mort, mais vit. Dedans moi, le démon. Dans le corps, comme en cale. En soi, comme en prison. Le monde, c'est des murs. Et seule issue, la hache. Le monde est une scène, dit l'acteur qui rabâche. Et ce n'est pas malice de ce bouffon bancroche. Dans le corps, comme en gloire. Le corps, comme une toge. 1000 ans de vie, si tu vis. Point de bronche. Seuls les poètes dans l'os, comme en mensonge. Non, mes frères chanteurs, pas un nous de flâner. Cloué, cloué au pilori du déshonneur, selon l'ancienne conscience des Slaves, marqué au front, un serpent dans le cœur, je vous l'affirme, je suis innocente. Je vous l'affirme, en moi, je porte une paix de communiante avant la communion. Je n'ai pas choisi de tendre la main, de mendier le bonheur sur les places. Fouillez tous mes biens et tous mes trésors. Dites, suis-je donc devenu aveugle? Où est mon argent? Où est-il mon or? Au creux de ma main, ne reste que cendre.
Merci Jacques Bonnafé, vous nous avez lu toute la semaine des poèmes de Marina Tsetaïeva.